Actu SF, les podcasts.
Bonjour, on va encore dire bonjour à cette heure-ci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Magic Mirror Idolize. J'aime bien ce nom, ça. Pour une table ronde où nous allons parler révolte, rébellion, remise en cause des statuts et des sociétés avec trois auteurs qui sont présents autour de nous. Manon Fargeton, tout juste auréolée d'un prix imaginal des lycéens, qui vient s'ajouter à un précédent prix imaginal pour son précédent roman. Ça va falloir acheter une cheminée bientôt, hein, pour les poser.
J'ai pas de trophée, c'est juste des papiers. Ça va. Tout va bien.
Estelle Faye est avec nous également. Bonjour Estelle. Et Lionel Davoust est avec vous. Nous allons visiter trois univers de fantasy avec des personnages qui effectivement ont choisi de se rebeller, de se révolter, parfois de leur chef, parfois parce que c'est un peu leur destin, parfois parce que c'est un peu le hasard qui intervient, voire carrément une divinité qui vient s'en mêler. On va voir ça avec Lionel en particulier. Alors, devant moi, j'ai les illusions de Savoir, mais Manon, on va aussi parler de l'héritage des rois passeurs, parce que c'est aussi une histoire de rébellion qu'il y a à l'intérieur, avec en particulier un personnage rebelle, puisqu'elle est au départ chasseuse de dragons. En tout cas, c'est comme ça qu'on la rencontre, avant de découvrir que c'est pas vraiment son premier statut social. En tout cas, c'est un statut qu'elle a choisi pour fuir un autre statut, en fait.
Effectivement, donc on parle de Raven, qui est une princesse, princesse du royaume d'ombre, et qui a choisi à 17 ans de se barrer parce que son père voulait la marier avec un homme et qu'elle n'était pas trop d'accord. Donc elle a choisi de partir, et elle est partie effectivement dans le Grand Sud chasser les dragons. Mais l'héritage des rois passeurs, c'est évidemment l'histoire de son retour.
Et on va la découvrir confrontée justement à sa famille, à cet héritage, à une situation historique, alors qu'on ne va pas forcément décrire en détail ici parce qu'il faut la découvrir au fur et à mesure bien sûr, mais qui est quand même assez complexe, qui est assez délicate, avec des équilibres qui sont très particuliers. Et elle va arriver et elle va remettre tout en cause.
Oui, c'est quand même beaucoup plus rigolo à écrire, quelqu'un qui remet tout en cause. Oui, évidemment, elle revient prendre son trône, puisque sa mère est sur le point de mourir et qu'elle est l'héritière légitime, donc elle revient prendre son trône, et ça plaît pas à grand monde, ça plaît pas ni à son père, ni à sa petite sœur qui devait prendre le trône à sa place, aux prêtres du royaume, ni aux magiciens du royaume, qui avaient tous façonné sa petite sœur bien malléable pour monter sur le trône. Évidemment, quand elle arrive et qu'elle est forte en tête, disons.
Elle a un sacré caractère. Oui.
ça ne plaît pas à tout le monde. On se doute qu'elle va plus faire ce qu'elle veut que ce que les autres veulent.
Et en particulier, le côté révolutionnaire, si on peut dire, hein, c'est qu'elle va arriver avec des idées bien arrêtées sur la manière de mener le royaume et en tout cas de régir d'une certaine manière la société et d'imposer des choses qui vont là aussi ébranler ce qui était en place jusque-là et ce qui fonctionnait jusque-là tant bien que mal.
Oui, alors par la force des choses aussi, hein, parce qu'il se passe des choses dans ce royaume qui font que le royaume va devoir évoluer de toute façon, mais elle devient la figure de ce changement, effectivement. Ouais.
Estelle Faye, nous allons partir à Bohène, qui est un royaume, un empire ?
Un empire complètement démesuré, parce que c'est ça qui est cool en fantasy aussi, c'est qu'on peut étendre les distances, faire des steppes infinies, faire des villes qui sont grandes comme des petits pays, avec des palais immenses, façades couvertes d'ambre vert, avec le rayon de soleil le soir quand il touche la façade, son rayonnement soit jusqu'au fin fond de la steppe. Et puis avec des bas quartiers où forcément c'est beaucoup moins glamour.
C'est un empire qui est un peu à bout de souffle quand on y arrive. Hein. On sent que ça vacille un peu sur les bases.
Disons, ça craque de partout, mais les puissants, ceux qui sont en place, comme très souvent dans l'histoire ici de notre monde, ne le voient absolument pas. Et donc, continuent leur petit jeu de puissants, c'est-à-dire, qui sait qui va trahir qui la semaine prochaine. Mais au fond, c'est pas à ça qu'on s'intéresse, en fait. On le voit un petit peu dans Bohène, mais ce qui occupe une partie de pas mal de romans de fantasy, c'est en gros qui poignarde qui pour monter sur le trône. Ici, c'est plus en fond. Même s'il y a des princesses qui sont des coupes entre elles un peu sympathiques. Et ce qu'on suit, c'est justement les gens qui habitent dans ces fameux quartiers pas du tout glamour qui sont en train de s'enfoncer dans le fleuve. Qui habitent sur les ports des Havres tout à l'ouest, qui sont menacés par des vaisseaux noirs, des vaisseaux maudits, ceux qu'on voit en couverture. Et des mercenaires qui probablement n'ont aucun espoir jamais d'accéder à une vie normale, ou un escrimeur errant qui est poursuivi par pas mal d'envoyés des bons bourgeois de la capitale parce que simplement il a un peu conduit leurs enfants à leur mort.
Maëve qu'on rencontre, et qui est justement cette jeune fille qui vit sur le littoral et qui est, considère que sa vie et celle de ses proches est en danger à cause de ces fameux vaisseaux noirs, au départ on peut pas spécialement dire qu'elle a une âme de révolte. Enfin, si elle est révoltée, en tout cas c'est plus contre l'inaction de l'Empire vis-à-vis de ces vaisseaux noirs que véritablement dans l'idée de tout renverser.
En fait, Maëve au départ surtout elle a un grand rêve, c'est libérer l'horizon, parce que donc elle vit au bord de l'océan. Mais c'est un océan que personne ne peut traverser à cause des fameux vaisseaux maudits mentionnés ci-dessus. Et Maëve, c'est pas la grande magicienne, forte et glamour. Elle a un pouvoir à peu près inutile, c'est-à-dire qu'elle sait cristalliser du sel au bout de ses doigts. Au bord d'un océan, ça sert à peu près à rien. Elle a essayé en plus d'étendre son pouvoir quand elle était ado en buvant des décoctions d'algues. Résultat, elle a les cheveux verts et rien de plus. Donc, c'est pas une grande beauté. C'est la fille d'un armateur, elle aimerait partir sur l'océan, mais de toute manière, même s'il n'y avait pas les vaisseaux noirs, les femmes n'ont pas le droit de naviguer sur les grands navires. Et malgré tous ces interdits, malgré tout ce qui pourrait la faire rentrer dans une case très étroite, elle décide de libérer l'océan, même peut-être pas pour elle, mais pour le monde, parce qu'elle veut au moins essayer ça. Et elle ne cherche pas à renverser un empire. Elle va juste essayer d'aller à la capitale, parler à l'impératrice tout au long de la dernière tour du palais d'Ambre. Mais on dit que l'impératrice est en train de devenir folle, donc ça risque d'être compliqué. Et simplement, parce qu'elle pense différemment, parce qu'elle voit plus loin, elle va se retrouver à être l'un des artisans du plus grand changement que Bohème ait connu, l'un des artisans de cette révolution. Et je me suis beaucoup documentée sur les fins d'empire et les gens qui les renversent. Et il y a vraiment deux choses qui reviennent très très souvent dans les fins d'empire ou de royaumes réels. C'est d'abord cette idée que effectivement les puissants ne voient pas l'usure, même si nous, avec le recul, on trouve qu'elle est partout. Et aussi le fait que les gens qui amènent le changement ne sont pas réveillés un matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire la révolution et je vais renverser le roi, l'empereur, le tyran, ça va être trop cool. » Mais plutôt étaient simplement des gens qui ont commencé peu à peu à penser différemment, à voir plus loin, à être un peu plus altruistes, à penser un peu au-delà d'eux-mêmes. Et ils ont commencé à agir en fonction de ça. Et c'est ça qui a fait qu'après, peu à peu, ils sont devenus des gens qui changent le monde.
Lionel Davoust, le cycle s'appelle « Les dieux sauvages », cycle en cours. La fameuse Jaworski, c'est-à-dire trilogie en 4 volumes. C'est bien ça.
Douglas Adams avait fait une trilogie en 5 volumes.
Ça, tout va bien, donc on est encore dans les normes. Le deuxième tome vient de sortir, Le Verrou du Fleuve, avec on retrouve Marianne, qui est le personnage central, même si c'est, on va le dire, un cycle choral. Il y a beaucoup d'intervenants dont on a les points de vue, et y compris des deux côtés des camps qui s'affrontent. Mais on va s'intéresser à Marianne en particulier, puisque elle est celle par qui tout arrive plus ou moins, qui au départ est une paria, donc elle n'a pas vraiment un profil de rebelle. Au contraire, à la limite, même en plus, ce statut de paria a l'air de lui convenir assez bien. Elle vit sa vie dans son coin, personne l'embête et elle embête personne, et ça lui va très bien.
C'est une société qui est vraiment pas très recommandable, puisque Dieu a décidé que l'ancien monde lui convenait pas. Donc, comme c'est un dieu, il a tout pété. Donc, il a détruit le monde. Et comme, selon la liturgie, c'est une femme qui est censée avoir corrompu l'ancien empire, du coup, toutes les femmes doivent porter la faute. Toute ressemblance avec ne serait pas totalement fortuite. Marianne est une femme, et donc déjà elle est née du mauvais côté de la barrière. Et elle avait plus ou moins le choix entre être serf sur une ferme, sois belle et tatoue, fais des enfants et tue-toi à la tâche, ou alors vivre libre. Donc déjà, ouais, elle avait un côté rebelle de base, puisqu'elle a décidé, en gros, non, je vais pas vivre dans votre monde, je vais peut-être vivre pas longtemps, parce que c'est donc après l'apocalypse, la magie a laissé des zones qu'on appelle les zones instables. Qui sont en gros des accidents nucléaires puissance 10, où des orages magiques se déclarent, où les animaux mutent, ou en monstres assez décérébrés. Mais bon, au moins, elle allait vivre libre. Peut-être elle n'allait pas vivre vieille, mais elle allait vivre libre.
Et puis, voilà que d'un seul coup, là encore, ça va vous rappeler quelqu'un, à mon avis, elle se met à entendre des voix, ou une voix en particulier.
Oui. Effectivement, bah, la citation qui ouvre le cycle, c'est « Dieu premier servi », et c'est Jeanne d'Arc qui a dit ça. Alors, la manière dont c'est utilisé dans le cycle, c'est pas tout à fait la manière dont Jeanne d'Arc l'a dit. Puisque les dieux, effectivement, ont plutôt tendance à vouloir se servir eux-mêmes, et que les hommes, sont les êtres humains, sont de magnifiques pions à envoyer mourir en leur nom contre justement le dieu d'en face, qui évidemment est l'ennemi, forcément, puisque c'est le dieu d'en face. Oui, alors effectivement, il y a une claire inspiration de Jeanne d'Arc dans les dieux sauvages, à ceci près que Marianne, elle n'est pas vraiment croyante, en fait, à la base. Donc c'est un monde où effectivement on peut tout à fait savoir, et notamment c'est le cas de Marianne, oui, Dieu existe, puisque le monde a été détruit et qu'on vit tous les jours dans la misère et dans l'horreur, c'est bien la preuve que Dieu existe, mais ça ne veut pas dire qu'on croit en lui au sens où on considère qu'il a eu raison et qu'on l'apprécie. Donc du coup...
Alors c'est ce qui se passe en particulier dans le premier volet, où là pour le coup elle va aussi se révolter contre cette voix et contre ce dieu qui l'a choisi. Et d'abord elle ne comprend pas pourquoi c'est elle, et puis ensuite parce qu'il l'enquiquine sans arrêt. Quoi.
Le lecteur a des éléments sur pourquoi c'est elle, c'est mais bon. oui, c'est en gros on lui dit tu vas sauver le monde, donc elle se retrouve à devoir sauver un monde qui lui déplaît puissamment pour le compte d'un dieu qu'elle n'a jamais aimé. Mais bon, à un moment il faut bien que quelqu'un fasse le taf. Et Marianne, ayant quand même bon cœur, peut pas rester immobile en voyant, en voyant les gens, y compris les gens de son village, qui sont massacrés par les armées du dieu d'en face, qui ont l'air encore pire. Mais la révolte en elle, elle est présente tout le temps. C'est pour moi, j'avoue que c'est un grand plaisir d'écriture, de disposer d'avoir un personnage qui dispose d'une ligne directe avec Dieu, puisque ça me permet de mettre en scène des dialogues assez rigolos où Dieu essaie de dire que voilà, Dieu prône la croyance déterminée, aveugle, prône la foi, etc. Et elle passe sa vie à poser toutes les questions que je pense des tas de gamins ont rêvé de se poser au cours du catéchisme, moi y compris.
Maintenant, Fargeton, on a parlé là de révolution qui allait venir de l'extérieur, hein, par des personnages qui n'étaient pas justement forcément au départ des nobles, des gens installés. Or Raven, c'est le contraire, elle va révolutionner de l'intérieur. Ou en tout cas elle va essayer, parce que rien n'est simple dans cet univers et y a des dangers multiples qui rôdent un petit peu partout, qu'il y a des traîtres qui rôdent un peu partout également, mais elle a on se pose quand même la question quand on commence la lecture, parce qu'on se dit ok, elle va vouloir révolutionner, mais qu'est-ce qui va naître de cette révolution, parce que finalement ça serait remplacer une monarchie par une autre forme de monarchie.
Alors, oui, elle va révolutionner de l'intérieur, mais elle a eu besoin de partir pour pouvoir faire ça. Si elle était restée, je ne pense pas qu'elle serait devenue ce qu'elle est devenue en partant. Et donc, elle peut révolutionner de l'intérieur parce qu'elle est partie, parce qu'elle s'est confrontée à d'autres modes de vie, à d'autres modes de gouvernance, à d'autres et c'est aussi pour ça qu'elle peut revenir et tenter de changer les choses. Alors elle va déjà tenter de c'est une société qui est très patriarcale, sous un couvert de c'est les femmes qui ont le pouvoir et qui héritent du pouvoir.
Disons qu'il y a une matrilinéarité dans les faits, mais ouais, elle est conditionnée
En fait, en gros, dès que la reine suivante, donc la reine et la princesse héritière prend le trône, elle doit épouser un mage du clos des magiciens à Astria, donc la ville, la capitale du royaume. évidemment, tout de suite, ça crée un déséquilibre parce que c'est conditionné à ça. La prise de pouvoir est conditionnée à ce mariage-là. Et il se trouve que Raven, elle aime les filles, donc ça lui va pas trop comme réalité. Et puis en plus, elle est pas du tout d'accord pour laisser un magicien prendre le pouvoir, puisque en fait les reines deviennent des marionnettes entre les mains des mages et des prêtres. Donc elle va profiter du fait que un mystérieux mage étranger
Venu d'un monde étrange.
Venu d'un monde étrange qui ressemble fort au nôtre. débarque à Astria et est reconnu comme un magicien. Ne savait pas qu'il était un magicien parce que il habitait chez nous. Et quand il débarque là-bas, eh ben il se trouve qu'il est un magicien, que ses pouvoirs se déclenchent et qu'elle va profiter de ce mage-là qui n'a jamais été formaté par le clos des magiciens et ça pour dire hey, toi, je vais t'épouser et puis une fois que je t'ai épousé, bon, par contre tu dégages. Ça va pas tout à fait se passer comme ça non plus, mais on va
revenir sur le caractère de Raven parce qu'il est vraiment très très intéressant et il est très ambigu d'une certaine manière. Hein. C'est un personnage qui a des côtés troubles, qui n'est pas forcément.
Oui, les personnages troublants, c'est pas drôle non plus à écrire. c'est évident, oui.
Estelle Faye, l'autre personnage qui vraiment bouscule tout, elle s'appelle Sigalit. Elle, pour le coup, elle est vraiment aussi issue des basses couches de la société. Elle est même issue d'une communauté qui est mise au ban. Qui est-elle, Sigalit ?
Sigalit, c'est celle qui a vraiment pas eu de chance en naissant. Parce que, bon, comme pas mal de, quand même des personnages aussi de Bohène, mais bon, en général, c'est un monde de médiéval renaissance, donc pour avoir de la chance en naissance, c'était quand même très limité, hein, les probabilités. Elle est née pas dans le pire quartier de la capitale, mais juste celui d'à côté, qui est en train donc de s'enfoncer dans le fleuve. Et c'est le ghetto des Essènes, c'est une religion très minoritaire, donc aussi très fondamentaliste, où en plus la place des femmes est, disons, en gros, elles doivent se marier le plus vite possible avec le beau parti que la communauté leur a désigné et rester le plus silencieuse possible, ça c'est bien. Donc en plus, la famille d'où vient Sigalit a une malchance supplémentaire. C'est-à-dire que c'était presque la bourgeoisie du quartier, ce qui ne veut pas dire grand-chose vu la misère locale, mais quand même un peu. Et puis, quand Sigalit est encore tout bébé, quand elle avait 2 ans, son grand frère a été accusé d'hérésie. Parce qu'autrefois, les Essènes maîtrisaient la magie des mots, ils arrivaient à faire se mouvoir la matière rien qu'avec des paroles. Et ils arrivaient à faire se mouvoir les grands golems de glaise. Mais leurs propres prêtres leur ont interdit d'utiliser cette magie. Et depuis, les golems de glaise, dit-on, reposent au fond du fleuve, sont devenus des couches et des couches d'alluvion. Et simplement, donc, il y a un Essène qui, 15 ans plus tôt, a osé prononcer à nouveau les mots de pouvoir. C'était Yanoche, c'était le frère de Sigalit. Résultat, on lui a coupé la langue, on l'a exilé, plus personne n'en a entendu parler. Simplement, évidemment, toute la famille aussi a été frappée d'une honte sociale qui fait que maintenant, ils survivent tous serrés dans un taudis sur les toits. Donc, les parents de Sigalit, ses 2 sœurs aînées qui rêvaient d'épouser les meilleures parties de la communauté, mais là, ça ne va plus trop être possible. Et donc, Sigalit, dont en plus, on dit qu'elle a les yeux de son frère, ce qui, évidemment, n'est pas forcément un avantage. Et pendant que sa famille se lamente, elle les fait survivre comme un peu avec un super emploi. Elle travaille à la prison de la capitale et elle met les habits des condamnés à mort à la taille du bourreau. Mais simplement, cet emploi qui, à la base, semble, disons, pas très réjouissant, en fait, fait que, dans la journée, elle peut sortir du ghetto et elle voit le monde extérieur. Elle fait aussi quelques travaux de couture pour une vieille lingère aveugle qui, pareil, habite en dehors. Et elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, mais elle est complètement analphabète, elle a finalement très peu de vocabulaire simplement à cause de son parcours. Elle n'arrive même pas à mettre des mots, en fait, sur son mal-être, sur sa condition. Ses seuls moments de liberté au début, c'est quand elle va dans le vieux cimetière Essène, qu'elle pense à son frère au bord du fleuve, à cette histoire des golems de glaise, et qu'elle se scarifie pour trouver là, dans le petit moment de souffrance, quelque chose qui lui appartient qu'à elle, en fait. Et puis, simplement, un jour, donc, sa famille est arrêtée pour de bon. Et là, elle doit fuir, elle doit quitter le ghetto et se confronter à la grande ville. Et dans cette confrontation-là, dans cette situation tragique, elle va vraiment découvrir un monde beaucoup plus large et elle va complètement s'épanouir dans ce monde-là et aller beaucoup plus loin qu'elle aurait cru aller. Et finalement, avoir un destin assez exemplaire.
Alors, Sigalit, il faut quand même le dire, c'est un personnage qui est assez secondaire dans l'histoire, même si elle tient un rôle important en elle-même. C'est pas forcément un des personnages centraux, mais en revanche, c'est vraiment son rôle qui est fondamental dans l'histoire.
Bah, disons, c'était à la base surtout un personnage encore dans le tout première version de Bohène, tout au fond de ma tête. Sigalit était un personnage très secondaire et qui, juste donc, avait cette fuite hors du ghetto, se retrouvait d'abord à être hébergée donc par le bourreau à la prison de la prison centrale pour des raisons que je vous laisse découvrir. Et puis parce que de toute manière, elle n'a pas beaucoup d'amis en dehors du ghetto. Et là, donc, elle rencontrait et elle aidait l'un des personnages principaux. Mais c'était juste ça, c'était un adjuvant pour un des personnages principaux. Simplement, Sigalit, au moment de l'écriture, elle a voulu continuer à vivre, elle a voulu vivre sa propre histoire. Et je peux faire un petit spoiler, tout petit, petit, petit. Et en gros, quand le premier meneur de la révolte dans Bohême, il y a une première révolte dans la capitale, elle avorte, tout le monde meurt, c'est un bain de sang. Et Sigalit est une des très rares qui s'en sortent. Et elle commençait juste, en fait, à un petit peu écouter le cercle des révoltés. Elle commençait juste à apprendre à lire grâce à eux. Et là, elle se retrouve avec tout à coup donc tous ses nouveaux amis et toute cette nouvelle cause à laquelle elle croyait, qui est complètement décimée en une journée. Il n'y a presque plus personne. Et tous ceux qui restent sont complètement déprimés, complètement désespérés. Et là, en gros, si elle ne reprend pas le flambeau, ben, il n'y a personne qui va le faire. Et elle va reprendre le flambeau.
Lionel Lavoust, Marianne, on l'a dit, est donc l'élu de Dieu d'une certaine manière. Elle a une mission dont elle ignore quasiment tout, mais qu'elle doit mener en écoutant cette voix intérieure qui la guide. Dans le deuxième tome, on voit qu'il la guide un peu moins, même il est assez, par moments, il a des absences, on va dire, le Dieu Wer. Ce qui est intéressant, c'est que dans le premier tome, sa révolte, elle est aussi contre cette voix qu'il y a dans sa tête. Et puis dans le deuxième, dans le verrou du fleuve, il y a une petite modulation, c'est-à-dire qu'elle commence à accepter l'idée que de toute façon, elle se débarrassera pas de cette voix comme ça et que le mieux qu'elle a à faire pour qu'il la laisse tranquille, c'est qu'elle accomplisse ce qu'il lui demande de faire. Et là, elle va basculer parce que la difficulté qu'elle a, c'est à se faire accepter parce qu'elle est femme. Et qu'elle arrive, elle débarque. Tout le monde la prend pour une folle parce qu'elle entend... entend des voix et qu'elle prétend parler au nom de Dieu, ce qui évidemment paraît totalement délirant. Et elle doit convaincre un monde incrédule que le cauchemar n'a pas encore commencé, mais qu'on n'en est pas très très loin.
Bah le cauchemar est déjà quasiment là, en fait, puisque le dieu adverse, le frère ennemi de Wer, puisque forcément les dieux sont forcément des frères ennemis en général, ils s'en amusent eux-mêmes d'ailleurs, a franchi les montagnes, qu'on disait infranchissables, et en tout cas... enfin, j'évite de spoiler la série, mais donc elle, effectivement, à un moment, elle va quand même se rend compte quand même assez vite que, si elle doit faire le travail, elle se fera à sa, le travail se fera à sa manière. Mais il y a effectivement cette double couche qu'il faut qu'elle accepte Dieu, il faut que les gens l'acceptent.
Elle est une intermédiaire.
Elle est une intermédiaire. D'ailleurs, dans le volume 1, je joue beaucoup sur l'élu de Dieu arrive. D'ailleurs, c'est pour moi aussi un jeu, en tant que lecteur de fantasy à la base, c'est pour moi aussi un jeu sur la notion d'élu qu'on a fréquemment dans les cycles de fantasy. Et du coup, de jouer avec un élu qui n'en a pas envie et un monde qui ne veut pas de cet élu-là. Après, vient un peu plus de nuance sur comment se construisent les mythes et en quoi les mythes et les légendes, parfois... même si c'est des mensonges, les gens en ont besoin. Et notamment quand le monde est désespéré et que les armées et que les démons sont aux portes, au bout d'un moment, est-ce qu'on n'a peut-être pas besoin de ce mythe-là, même si ce n'est pas celui qu'on aurait voulu, parce que, de toute façon, si on ne met pas un petit peu de cœur et d'encouragement aux gens, ils vont se laisser tuer sur place. Donc, vient se rajouter par-dessus la notion de... qu'est-ce qu'on croit, qu'est-ce qu'on fait quand la survie est directement menacée. Mais il y a aussi le fait que tout un mythe va se construire au fur et à mesure autour de Marianne, dont elle est finalement quelque part la première victime. C'est un peu fort, mais il lui appartient absolument pas, en fait.
Elle se retrouve presque dans une position de prophétesse, parce qu'elle annonce les événements. Et finalement, ce qui est terrible dans sa position, son impuissance, et là aussi en particulier dans le deuxième tome, c'est qu'elle annonce les catastrophes et que le seul moyen qu'elle a de convaincre qu'elle dit la vérité, c'est que la catastrophe se produise, ce qui est épouvantable comme situation.
C'est très lourd à porter pour elle. Elle essaie de garder la force morale et en plus de montrer que Dieu vous aime, allons-y, toutes vos souffrances ont du sens, sachant qu'au fond d'elle-même, elle meurt à chaque fois un petit peu, parce que de toute façon, elle-même n'y croit pas des masses,
Et donc, c'est une situation assez dure pour elle dans le 2, ouais, effectivement.
Comme chez Estelle, c'est un personnage, on l'a dit, qui vient plutôt du bas de l'échelle et qui se retrouve confrontée aussi à une société dont elle ignore les codes, dont elle ignore un peu les règles. Elle arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles, avec son caractère, sa sincérité aussi, et puis bah, voilà, ce côté enragée au bon sens du terme, hein, parce qu'elle est vraiment, elle est quand même souvent au bord de la crise de nerfs, la demoiselle. Et là, c'est pareil, voilà, il faut arriver à bouger des vieux barbons qui sont là depuis très longtemps, des officiers qui croient tout connaître mieux que tout le monde et qui finalement la considèrent comme une moins que rien.
Or, elle fait partie des rares personnes, forcément, grâce à la ligne directe qu'elle a avec Dieu, à connaître un petit peu ce qu'est l'armée en face, en fait. Et en tout cas à connaître les puisque Ware lui donne les infos, à savoir comment est-ce que les unités fonctionnent, comment est-ce que ces dieux-là fonctionnent, etc. Mais tout en gardant évidemment le ce que fait un dieu très bien, c'est-à-dire en dire le moins possible, de manière à, parce que finalement la notion, c'était une question que je me posais. La notion de religion dans un univers de fantasy, c'est toujours un truc un peu compliqué, parce que par nature, la religion et la foi se basent sur le mystère, se basent sur ce qu'on ignore. Et la foi se construit sur la recherche très humaine de narration dans ce qui nous arrive, de donner du sens à ce qui nous entoure. Je ne dis pas que c'est vrai, que ce n'est pas vrai, hein, je veux choquer les croyances de personne, mais à la base, c'est basé sur le mystère. Et quand donc c'est basé sur le mystère de quelque chose de surnaturel. Or, comme la fantaisie a pour finalement met en scène de la magie qui est avérée et qui est réelle et qui donc se comporte peut-être un petit peu de manière plus empirique, où est le mystère quelque part, où se trouve la place de la foi? Donc voilà, je m'amuse aussi à jouer avec cette espèce de zone d'ambiguïté, où comment recréer dans un univers de fantasy une zone de mystère qui peut se prêter à la foi, parce que quand on a dans un univers de fantasy que j'aime beaucoup par ailleurs, mais où parfois les dieux marchent parmi nous, il y a pas de foi, on a autant de place pour la croyance que nous on dit je ne crois pas à la gravité, elle est là. Donc on va pas construire d'église à la gravité, ça a pas de sens. On va pas construire pas d'église à un fait, on construit d'église à ce qu'on ignore. Et du coup voilà, ça fait aussi partie du jeu des dieux sauvages, c'est comment faire cohabiter justement la magie et le culte à mystère, en fait.
Est-ce qu'il faut préciser, pour ceux qui ne connaîtraient pas le cycle, et plus généralement ton travail romanesque, c'est que le lecteur, lui, a cet avantage d'avoir des éléments de connaissance supplémentaires en fonction des précédents livres qui se sont déroulés, en particulier ceux qui se sont déroulés avant l'Apocalypse, avant que ce dieu décide de tout raser, qui effectivement donne pour le lecteur une vision très différente de celle que les personnages ont dans le livre.
Alors on n'est pas du tout obligé d'avoir lu ce qui précède, mais c'est vrai que si on l'a fait, bah on a l'éclairage, et on peut le faire dans n'importe quel sens. Les dieux sauvages, c'est un cycle vraiment contenu, mais c'est vrai que même sans avoir connu ce qui précède, de temps en temps, il y a quand même des trucs qui sont dits magiques ou oni et tout, etc. On se dit, mais ça a quand même l'air drôlement technologique, cette histoire. Genre, oui, non.
Jetez un œil à la route de la conquête. Ouais. Ça sera une bonne, un bon moyen d'entrer dans le cycle aussi pour arriver à bien cerner les choses.
Genre, voilà, juste un petit truc dans les dieux sauvages. À un moment, on parle de voix noires qui sont des espèces d'étranges voies tracées qui datent visiblement de l'ancien temps, qui sont faites d'un espèce de matériau noir assez épais, craquelé, qu'on sait pas trop ce que c'est, mais en gros c'est juste une route.
Manon, j'écoutais Lionel et finalement il y a des choses qui font écho aussi avec la situation de Raven, parce que elle revient, elle est seule et elle doit là aussi convaincre, elle doit faire ses preuves, elle doit prouver à tous qu'elle est capable de gouverner, et que finalement ce qu'elle remet en cause, il y a au moins dans son esprit et dans ce qu'elle veut instiller aux autres, c'est juste ce qu'elle veut faire, c'est améliorer la situation.
Et par rapport à ce que tu disais aussi, elle revient, mais elle revient aussi parce qu'elle a promis de revenir, et elle a promis de revenir à un dieu. dans cet univers là il y a trois dieux. Il y a la déesse du jour, le dieu de la nuit, et puis il y a le dieu gris qui est le dieu de la vie et de la mort, et qui est le grand frère des deux premiers. Et elle a promis à un serviteur du dieu gris qu'elle reviendrait, et on ne fait pas une promesse au dieu gris à la légère. Donc c'est aussi pour ça qu'elle revient. Et le dieu gris en particulier, on ne l'a pas vu depuis très 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 longtemps. Il marchait parmi les hommes, mais lui, on ne l'a pas vu depuis un sacré bail. Donc il y a aussi toute cette question-là dans le trajet de Raven. Voilà, elle a promis de revenir, et elle aimerait bien rester avec ses dragons quand même au début. Mais elle fait ce choix-là de revenir parce qu'il y a eu cette promesse et qu'elle ne veut pas s'y dérober. Et donc, elle revient, mais elle revient à sa façon, avec ce qu'elle est et avec ce qu'elle veut changer, parce qu'il est hors de question qu'elle continue, qu'elle perpétue un système dont elle a choisi de partir parce qu'elle n'était pas d'accord avec. Donc, c'est tout ça qui se mélange. Donc, effectivement, elle revient et elle doit trouver des soutiens. Elle est toute seule et elle doit trouver des soutiens, et elle va les trouver à plein d'endroits différents. Elle va en trouver dans le château, elle va en trouver parmi les soldats, elle va en trouver elle va trouver par exemple ce fameux serviteur du dieu gris qui est un peu hors politique, disons.
Au-dessus des partis.
Au-dessus des partis, c'est ça. Et puis, et contrairement au clergé, aux deux autres clergés, où là, les dieux apparaissent régulièrement. Donc les clergés sont actifs. Et puis, il y a tout un dogme. Voilà. Il n'y a pas de dogme pour le dieu gris. Il ne voulait pas de dogme. Donc, il n'y en a pas. Et ça lui permet, étant le serviteur du dieu de la vie et de la mort, bon, tu l'emmerdes pas trop, quoi. Donc, donc ça lui permet aussi de tirer des ficelles et d'aller donner des connaissances ou des clés, en tout cas à Raven, pour évoluer là-dedans.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Raven, elle se retrouve avec une palette relativement large pour essayer justement de convertir à sa cause, hein, d'une certaine manière. On peut séduire, on peut miser sur l'intelligence collective et leur faire comprendre que ce qu'elle prône devrait être meilleur que ce qui est en place. Et puis quand même, il y a l'autorité. Et au bout d'un moment, Raven, elle prend quand même une tournure, ou en tout cas, le lecteur que je suis, moi, commence à s'inquiéter un petit peu.
Bah oui, parce que Raven, elle veut faire ce qu'elle veut faire, mais elle n'a pas forcément envie de faire d'expliquer à tout le monde ce qu'elle veut faire. Donc... Donc elle fait ce que font beaucoup de souverains, qu'ils soient élus ou non, et elle fait des choix soi-disant pour le bien commun, mais qui est-ce que c'est vraiment pour le bien commun, ou est-ce que c'est pour mettre en place ce qu'elle veut mettre en place elle? Au final, on se pose la question.
Elle a un côté très machiavélique, hein, qui commence à apparaître.
Ouais, elle a un côté, c'est clairement une mastermind. Alors bon, elle se débrouille bien avec une épée, mais elle se débrouille surtout bien avec son cerveau, quoi.
Et on va la voir donc affronter des gens qui ont infiniment plus d'expérience, mais elle va trouver les moyens de les mettre en échec les uns après les autres.
Oui, et puis elle est très forte aussi elle est très forte dans la provoque, et elle est très forte dans ce côté voilà, les règles, voyez votre règle là, et ben je la prends et puis je la jette, on va faire autrement maintenant. Donc elle est très forte là-dedans, et ça permet aussi de court-circuiter un peu certaines oppositions parfois, parce que voilà, elle le dit avec tellement d'aplomb et avec tellement d'autorité, effectivement, que bon, c'est bon, ok, bon bah voyons ce que ça donne. Il y a aussi ça en face qui arrive,
et petit à petit on voit les pièces de l'échiquier qui commencent à tomber, et on la voit gagner du terrain progressivement, mais toujours quand même avec ses inquiétudes, enfin avec ses questionnements qu'on peut avoir.
Oui, et puis avec des oppositions assez assez énormes, hein, quand même.
Ah oui, c'est
entre les guerriers et les magiciens et tout le monde qui essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, et puis plus que des bâtons dans les roues, qui essaye de l'assassiner purement et simplement, elle a quand même de quoi faire au niveau opposition.
Estelle Faye, dans Les Seigneurs de Bohème, on a donc cet empire vacillant à qui Sigalit et ses camarades vont donner un dernier coup de pied, un coup de grâce finalement d'une certaine manière. On a aussi, au fur et à mesure des rencontres que l'on fait, on a des personnages, certains qui sont ouvertement révolté. Je pense à, on a un personnage de Nayad, si je me souviens bien, qui trafique des armes.
Enfin, de Tsigane du fleuve, oui, et qui voilà. A un petit côté métamorphe aussi.
Qui trafique des armes. Et puis on en a d'autres qui, au contraire, sont un peu entraînés par l'histoire et qui sont amenés à se retrouver dans des situations compliquées, dans des strates qui les concernent a priori pas.
Bah, disons, il y en a que l'histoire rattrape, mais même quand l'histoire rattrape, c'est à eux aussi de faire... Voilà, c'est eux qui font leur choix. Et c'est eux qui, au bout d'un moment, avec les cartes qu'on leur donne, décident de faire certains choix qui sont plus dangereux, plus risqués, mais aussi potentiellement plus porteurs de changements que d'autres. Et parfois des choix assez radicaux, parfois des choix qui sont de fait suicidaires, mais si l'être humain était mené juste par la raison, ça se saurait. Et surtout, bah, pour revenir justement sur la trafiquante d'armes, donc il y a beaucoup de choses qui transitent sur les fleuves parce que c'est un monde où, comme dans l'Europe centrale de la Renaissance, il y a beaucoup de commerce sur les fleuves. Bien sûr, elles transportent des armes, mais en fait, c'est pas ça, sa vraie cargaison, comment dire, révolutionnaire. C'est un monde où il y a les premières armes à poudre, où il y a les premiers canons, où il y a des magiciens qui peuvent être capables de mener des armées de ghouls, de soulever des tempêtes de neige, voilà, de commander aux vagues et aux vents. Mais l'arme la plus forte, et ce qui fait finalement que le monde change, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle « Le traité de la fin des empires » et qui se répand dans le monde. Et c'est en fait des exemplaires de ce livre qui sont cachés sous les armes que transportent les tziganes du fleuve. Et finalement, quand ils sont arrêtés au barrage, donc les gardes de l'Empire voient les armes, mais ils ne voient pas dessous le livre. Et c'est ce livre-là, en fait, qui change le monde, qui change l'esprit des gens. Parce que la plus grande force de l'Empire, donc bien sûr, il y a une religion dans l'Empire qui est disons, assez autoritaire et qui permet de bien asseoir le pouvoir. Mais la plus grande force de l'Empire, ce n'est pas de dire qu'il est de droit divin. C'est surtout que pendant des siècles, il a réussi à faire croire qu'il était le seul gouvernement possible. Que de toute manière, c'était normal qu'il n'y ait que lui qui existe. Et ce livre-là, il change le monde. Et surtout, ce dont va s'apercevoir Maëve quand elle va le croiser, c'est que ce n'est pas un livre comme les autres, parce qu'il n'est pas recopié à la main par un moine copiste. Et à un moment aussi, ben donc, dans la capitale, Cernatchernik, Sigalit, le premier des chefs révoltés, va lui montrer finalement la plus puissante arme de ce monde. Et c'est un petit carré de plomb avec une lettre à l'envers. Et c'est un des tout premiers carrés d'imprimerie. Et voilà, c'est ça aussi que j'ai voulu dire dans Bohène, c'est-à-dire, bien sûr, c'est de la fantaisie, donc évidemment, je me fais plaisir avec la magie, puis il y a des grandes batailles aussi, j'adore écrire des batailles, des scènes d'action, il y a des grands combats à l'escrime, mais il ne faut pas oublier que la première chose pour changer un monde, c'est de changer la vision qu'on peut en avoir et de changer la vision de ce qui est possible. Et donc, la plus grande arme, finalement, c'est un livre.
Lionel Davoust. Ah non, mais je laissais un silence respectueux après cette déclaration. Lionel, là, on est dans une situation où... alors, je vais reprendre une idée qui est la mienne, que tu n'es pas obligé de partager, mais moi, j'ai l'impression, comme il y avait dans La Volonté du Dragon, où on avait des dieux qui jouent aux échecs, dans Les Dieux Sauvages, pour moi, ils jouent au jeu de rôle. C'est une vision que j'ai, c'est-à-dire qu'ils projettent dans des personnages qui sont, alors qui en l'occurrence ne sont pas juste des cartes ou des figurines, mais qui sont des êtres humains, mais ils interagissent exactement de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils les déplacent en fonction de leurs intérêts et ils agissent. Et là, Merian en particulier, et on verra peut-être que d'autres dans le courant du cycle suivront la même trace, Merian, elle est justement une figure du jeu qui ne veut plus accepter simplement d'être déplacée, elle veut d'abord comprendre, et puis, quitte à servir une cause, autant qu'elle soit juste cette cause, et donc qu'elle y adhère, hein, ce qui est aussi un des points d'interrogation qu'il y a dans ces deux premiers volets. Voilà, il y a cette rébellion qui finalement est assez peu classique, parce qu'en général, les héros à l'antique, par exemple, sont les jouets du destin d'un bout à l'autre. Or, là, justement, elle essaye de couper ses fils.
Alors, j'ai été joueur de jeux de rôle pendant longtemps, j'en ai même écrit, donc peut-être que ça se retrouve inconsciemment. En tout cas, c'était pas conscient. Mais peut-être, voilà. Je pense que y aurait du boulot pour un psy à dire, avec aussi le rapport entre l'auteur et le personnage qui s'échappe et qui se rebelle et tout, etc. Mais bon, je laisse ça à mon inconscient. C'est lui qui bosse, de toute façon. Donc, il y a, à titre très personnel, j'ai toujours été embêté par l'idée de destin. Je fais partie des gens qui pensent que chaque moment mène le suivant et que ce qu'on peut faire, c'est juste essayer de faire ce qu'on peut de mieux à ce moment-là et lâcher prise, parce que de toute façon les conséquences nous échappent. Et donc dès qu'il y a une idée de destin, c'est toujours un truc qui m'embête, et c'est fréquemment quelque chose qui apparaît aussi. Il y a, je pense qu'aussi c'est encore une fois, hein, il y a d'énormes cycles dans le genre en fantasy qui sont basés sur l'idée de destin et que j'ai beaucoup apprécié, mais moi c'est pas un truc que j'ai envie de traiter. Et justement l'idée d'avoir un dieu qui dit non mais je connais ton destin, regarde ça va être comme ça, en fait je c'était pas volontaire dans les dieux sauvages, mais je me connais un peu et je pense que c'est forcé d'affleurer. Il y a un côté révolte humaniste derrière, de dire ouais les dieux, les destins et tout, etc. Non mais l'être humain, pardon, les hommes et les femmes, l'humain, architecte de son destin, l'humain prenant conscience de l'instant, essayant de faire ce qu'il peut et de son mieux pour essayer de créer un meilleur, une meilleure prochaine minute, un meilleur lendemain. Donc il y a ce truc là et je pense. Dans la série Léviathan, il y avait déjà cette idée-là de révolte, donc qui est thriller, mais qui est de la fantasy urbaine. Là aussi, cette idée de révolte de l'humain contre le pouvoir, contre cette idée de dire oulala, un peu comme Lovecraft, mon Dieu, le monde est immense, le monde est effrayant. Lovecraft disait, je vais la citer très mal, mais si l'une des plus grandes bénédictions de l'être humain, c'est l'ignorance, parce que si le cerveau humain était capable de corréler toutes les pièces qui composent l'univers, il serait écrasé de sa petitesse et il deviendrait fou. Moi, j'aime bien des personnages qui sont capables de regarder ça en face et qui font « je suis peut-être petit, mais je vais te mettre ta race ».
Ah, c'est une conclusion qui est moins gracieuse que celle d'Estelle tout à l'heure. Je vais quand même laisser un silence.
Je suis navré.
Je suis le modérateur, donc je suis un peu celui qui, pour le coup, vous manipule pendant une heure, tous les trois. Mais j'ai pas été totalement de mauvaise foi dans les choix que j'ai faits. Parce qu'il y a quand même un élément qui est commun à vous trois et que j'ai essayé un petit peu de mettre en relief. C'est que vos personnages révoltés, ce sont des femmes. Est-ce que c'est pas aussi une nouvelle tendance dans la fantasy ? Parce que souvent, quand on remonte un peu plus loin, le rôle des femmes était souvent un peu à la portion congrue et sans doute pas la position ni d'héroïne ni de moteur véritablement de l'action. Et là, on retrouve dans vos trois romans vraiment des personnages féminins très forts, très présents et qui sont vraiment les moteurs à la fois de l'intrigue et des évolutions de vos histoires.
Alors, je ne sais pas si c'est une tendance. Ce que je sais, c'est que à 19-20 ans, je suis tombée sur la trilogie de l'Empire de Feist, qui est pour moi la meilleure trilogie de Feist, qui n'a pas écrit tout seul d'ailleurs, puisqu'il y avait aussi Jeanne Evert. Et je pense que cette association a été, pour moi, très fructueuse, puisque c'est pour moi la meilleure trilogie de qu'il ait écrit et qu'il a écrit avec quelqu'un d'autre. Et donc la trilogie de l'Empire de Feist, c'est le destin de Mara des Akoma qui se retrouve à la tête d'une très grande famille dans un très grand empire et avec plus rien. Une des très grandes familles de l'Empire, mais où tout a été décimé. Il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien. Et elle doit survivre. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui n'est pas une guerrière, sur, je crois que ça passe sur 30 ans, sur, allez, 20 ans au moins, et j'ai lu ça, et je me suis dit, ok, on peut faire ça en fantasy. Et c'est la première fois que je lisais un texte de fantasy où effectivement c'était une héroïne. Non, c'est la première fois que je lisais un texte de fantasy adulte où c'était une héroïne. J'en avais déjà lu, évidemment, en jeunesse. Mais en fantasy adulte, c'était la première fois. Et je me suis dit, ah oui, j'avais lu Gemmell, j'avais lu plein d'autres choses. Et là, d'un coup, je me retrouvais confrontée à ça. Et ça a été marquant pour moi. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est ça. J'ai envie d'écrire des femmes en fantasy. Alors, pas que, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Si j'écris un cycle de fantasy un jour, ça sera des femmes dans un monde de fantasy. Donc c'est parti de là. Après, le fait qu'il y en ait de plus en plus, bah, tant mieux. Que ce soit une tendance ou pas, en fait, je m'en fiche. Moi, je sais que c'était l'envie de base. Je me suis dit, si j'écris de la fantasy un jour, ça sera des personnages féminins qui mèneront l'action. Voilà.
Estelle ?
En fait, il y a un peu un double mouvement. Bah, d'abord, j'ai toujours aimé aussi beaucoup avoir des héroïnes et j'en ai pas vu assez dans ma vie. Et surtout des héroïnes qui ne se définissaient pas par rapport à l'homme, parce que quelque chose dont très vite j'ai eu marre quand j'étais jeune, c'était de dire, mais si, regarde, il y a la meilleure amie du héros, elle est très forte. Bon, d'accord, le héros finit par la sauver, mais quand même. Donc, ou il y a la meilleure amie du héros, elle est au choix ou une grande guerrière ou féminine, mais elle ne peut pas être les deux aussi, hein, c'est pas possible.
Et puis elle ne peut pas être l'héroïne, surtout, elle ne peut pas sauver le monde.
Bien sûr,
il faut que ce soit le mec qui arrive et qui sauve
le monde. Et surtout, le truc, c'est que même si elle est vraiment plus forte que le héros, il finit toujours par la sauver à un moment quelconque, parce que c'est lui le héros. Voilà, c'est juste parce que par la grâce divine ou par le destin, pour reprendre quelque chose que t'aimes bien, c'est lui le héros. Donc c'est vrai que ça m'a manqué pendant une partie de mon enfance et en même temps ce que je voyais. Notamment, j'ai eu la chance d'avoir accès à beaucoup de livres historiques et pas que ceux de l'école grâce à ma mère. C'est que quand on creusait un peu, ben, des figures féminines fortes pendant l'histoire, il y en a eu plein. Que juste on les mettait pas en avant, mais qu'elles avaient existé. Parce que aussi j'aime bien le côté historique et par moments on dit souvent oui non mais tu vois à cette période pouvait pas y avoir de femmes qui fassent ci ou ça. Si en fait voilà. Et puis donc de toute manière j'ai toujours aimé écrire des femmes. Après Boen est à peu près paritaire au niveau de la distribution je pense. Il y a grosso modo dans les personnages principaux autant de femmes que d'hommes. Il se trouve que les femmes ont un peu plus pris leur destin en main, notamment Cigalith, mais vraiment elle était inattendue. Et aussi, une des choses qui a beaucoup compté dans la création de Boen, c'est une table ronde ici même, dans cette même salle, aux Imaginales, il y a quelques années, où on parlait des personnages féminins. Et on disait qu'effectivement, il y en avait de plus en plus en fantasy, y compris dans des vrais premiers rôles, et ça c'est super top, mais que très souvent encore, ces personnages féminins n'avaient pas vraiment le même statut que les personnages masculins. C'est-à-dire, déjà, il y avait beaucoup de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire une série avec une héroïne très forte, mais quand même, dans l'entourage de grands personnages secondaires, il n'y a quasiment que des mecs. Et là-dessus, je plaide coupable, parce que c'est complètement ce que j'ai fait avec La Voix des Oracles, et je m'en suis rendu compte pendant cette table ronde de ma série précédente, où il y a quelques femmes dans les personnages secondaires, mais beaucoup plus d'hommes quand même, même s'il y a une femme en perso principal.
Pour te dire, le projet sur lequel je suis en écriture en ce moment, qui est de la fantasy adulte aussi, ma mère est ma première lectrice. Et donc, elle a relu la première partie, là. Et elle m'a dit, mais Manon, il y a des nanas partout. J'arrive plus à m'y retrouver. Il y a que des L. Je sais jamais quand tu dis L à qui ça correspond. Je fais, débrouille-toi. Enfin, je vais faire mon job pour que ce soit clair. Mais oui, il y aura des nanas partout.
Et puis aussi, on s'en est rendu compte, y compris entre auteurs qui aimaient écrire des personnages féminins forts, c'est qu'encore très souvent, nos personnages féminins, on les mettait quand même dans certaines catégories. D'ailleurs, il y a notre modératrice de l'époque qui est au fond de la salle, donc je la salue beaucoup parce qu'elle a pris une grande part donc, dans cette prise de conscience. Voilà, merci à toi. Que finalement, les femmes, il y avait certains défauts, quand on les leur donnait, qui faisaient que les lecteurs avaient beaucoup plus de mal à les trouver sympathiques. Par exemple, même Maëve. Au début, elle est un peu en couple avec Lantane, la grande magicienne rouge sur la couverture, mais pour elle, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Et Lantane le sait. Lantane sait que Maëve va partir et va lui échapper. Et elle l'accepte. Et Maëve, c'est ça, c'est quelqu'un qui va flirter avec d'autres femmes, qui ne va pas rester en couple, qui, quand elle va devoir choisir entre l'horizon et le grand amour, elle ne va pas choisir le grand amour. Il y a plein d'hommes et de héros hommes qui sont dans ce schéma, et tout le monde les trouve super cool, quoi. Je veux dire, c'est les James Bond-like et tout ça. C'est les mercenaires solitaires avec donc une fille dans chaque auberge et tout. Et souvent, on les trouve cool. Et alors qu'en plus, Maëve, elle est sincère quand elle est émue par quelqu'un, mais juste, c'est pas le centre de sa vie. Et ça, y compris des lectrices m'ont dit que quand même, Maëve, elle couchait un peu beaucoup, quoi. Alors qu'en plus, même pas tant que ça dans le bouquin.
Avec des gens différents, quoi. Non, mais sérieusement.
Oui, non, mais ah ouais. Mais c'est ça, c'est, y a encore des défauts, quand on, même pas des défauts, simplement des modes de vie, quand c'est des femmes qui les ont. Parce que choisir entre l'horizon et le grand amour, ça c'est un truc, je pense que je pourrais le faire, mais bon, ça c'est personnel. Je préfère le même choix que Maëve. Mais c'est vrai que ça, par exemple, c'est un choix que tout le monde trouve cool chez un homme, qui pose plus de questions encore chez une femme. Aussi, on a trop souvent tendance, son corps, à vouloir faire des femmes qui soient super héroïques, qui soient toujours quand même ou un peu glamour, ou qui n'aient pas trop de failles, qui ne finissent pas vraiment dans la boue, ou alors que ça soit carrément des grandes méchantes. Mais il y a plein de niveaux intermédiaires où on n'ose pas aller avec les femmes, ou pas assez. Et c'est ce que j'ai découvert lors de cette table ronde, et tout à coup, ça m'a ouvert, mais un nombre de personnages dans la tête dont j'avais même pas idée avant. Et je me suis retrouvée avec toute cette liberté en disant « Waouh, mais si je peux faire tout ça avec les femmes, qu'est-ce que je vais m'amuser, quoi ?» Et voilà, c'est ce que j'ai fait dans Bohème, c'est ce que je continue, là, je suis en train de travailler sur un deuxième roman dans cet univers. Et là, ouais, par contre, je pense qu'il y aura plus de femmes que d'hommes dans les persos principaux, mais promis, j'ai pas fait exprès. Notamment, je crois qu'il y a quelqu'un qui aime bien Célène dans la salle. Voilà. Et voilà, non, on devrait la retrouver. Ça, c'est fini pour les private jokes, désolé. Et aussi, ce dont je me suis rendu compte qui était génial, c'est qu'en m'autorisant ça, je donnais aussi une liberté beaucoup plus grande à mes héros masculins. Alors après, Bohème, c'est mon premier roman polémique, donc mon vieux côté punk est super content. Et notamment, il y a un personnage qui a un peu choqué des lecteurs, qui est le personnage de Venceslas, qui est un homme, mais qui déjà, une de ses principales caractéristiques, c'est d'être très beau, avec de longs cheveux dorés, tout ça. Et ça, c'est pas une caractéristique d'homme à la base. En tout cas, pas dans les tropes du genre, souvent. Et en plus, il se retrouve dans une position qui est souvent, c'est la position classique de la jeune ingénue innocente qui va être salie et broyée par un monde cruel. Bon, après, il va lui arriver autre chose quand même. Mais pareil, il se retrouve dans une position qui, traditionnellement, est dévolue aux femmes. Et ça va rendre d'ailleurs sa position d'autant plus difficile que même dans le monde où il est, il se retrouve dans une position qui n'est pas la plus confortable pour un homme.
C'est étonnant, parce que
c'est ça qui le rend intéressant.
C'est pas sur ce personnage-là que j'aurais parié qu'il y ait des polémiques.
Ah, Vince, il a fait causer. Hein. Ouais. Mais voilà, et finalement, quand on bouscule un peu toutes ces barrières-là, et que même, on ne se dit pas que parce qu'on est une femme, on va sûrement écrire des persos féminins parfaits, mais qu'on essaye de prendre du recul sur nos propres préjugés, d'essayer de décoder aussi nos visions de voir le monde, justement, quand je parlais d'horizons plus larges, là, tout à coup, on entr'ouvre plein de nouveaux horizons, et vraiment, grâce aux imaginales et grâce à cette table ronde, j'ai ouvert d'immenses horizons et d'immenses possibilités de personnages dans ma tête. Donc merci les imaginales, et pour moi c'est pas une mode, c'est juste une très grande liberté d'auteur, et ça permet d'inventer tellement plus de personnages, c'est tellement plus intéressant.
Lionel, le mot de la fin sur les personnages féminins. En plus, tu es le seul auteur masculin, donc tu es dans une position encore différente finalement par rapport à Manon et à Estelle.
C'est... Moi, j'ai eu une expérience, il y a des années, j'avais sorti mon premier bouquin qui s'appelait La volonté du dragon.
C'est ce que j'allais dire, d'autant que c'est pas la première fois que tu as un personnage féminin fort.
Je vois pas pourquoi j'en aurais pas, en fait.
Mais je,
c'est,
en je fait, pose les questions que je veux.
Non, mais tu arrêtes. Non, mais je sais que tu te fais la voix tu te fais la voix du cœur. Du cœur au sens grec. J'ai toujours eu des personnages féminins, j'ai essayé d'en avoir parce que je trouve ça intéressant à écrire parce que c'est la moitié de l'humanité, pourquoi j'en aurais pas. Et en fait j'essaie de faire ça du mieux que je peux, mais il y a un truc qui m'a marqué il y a des années, donc j'avais sorti La volonté du dragon, où il y avait donc il y avait une histoire de, entre autres, de bataille navale, et en passerelle dans les navires il y a des femmes officiers de passerelle. Alors, c'est un empire qui se veut une civilisation éclairée, mais éclairée genre empire romain, c'est-à-dire on va civiliser le monde, et puis si les gens sont pas d'accord, ils vont être civilisés quand même. Donc, mais ça se veut quand même une civilisation éclairée. Donc il y a des femmes officiers de passerelle, et je m'étais, mais genre, même pas posé la question, quoi. Et un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Ah, j'ai bien aimé, puis vous avez mis des femmes officiers de passerelle, est-ce que vous cherchiez à dire quelque chose ?» Et en même temps, c'était très sincère, et en même temps, le fait que la personne l'ait remarqué m'a vraiment me fait me dire, oula, il y a peut-être quelque chose que, en fait, je suis peut-être un peu naïf sur l'état du monde, en fait. Peut-être que je pourrais creuser un peu ça, y faire gaffe un peu plus, en fait. Et les dieux sauvages, Alors je vais à nouveau démontrer à quel point nous avons des fois du vocabulaire quand nous parlons à l'oral dans le milieu éditorial, n'est-ce pas? Mon éditeur m'a dit, après avoir lu le premier jet de La Messagère du Ciel, il m'a dit « J'ai lu ton bouquin, j'ai vachement aimé, et je me suis dit « Oh la vache, Lionel, il est vénère !» Et ouais, un peu, je crois. C'est... Je me rends compte, et c'est vachement intéressant pour moi personnellement à travers l'écriture des Dieux Sauvages, de me rendre compte aussi de mes zones, voilà, des endroits où des fois je me rends compte que bah, je suis pas une femme, mais dans un endroit où je peux pas aller intellectuellement, psychologiquement, en tout cas moi, avec mon petit cerveau. Mais voilà, c'est aussi un bouquin qui parle en fait des ravages du patriarcat. En tout cas, j'aimerais. C'est difficile. J'essaie d'éviter de trop aller dans ce truc-là parce que je vois trop de la part d'hommes le fait de s'arroger le truc. Hey, je suis féministe, regardez, je suis un mec cool. Et ça m'ennuie profondément en fait. Parce que je trouve que c'est une manière de confisquer la lutte à nouveau et ce qui est extrêmement désagréable. Donc, quand on me dit que les dieux sauvages sont féministes, je suis hyper honoré, ça me fait super plaisir, mais c'est pas à moi de le dire.
Voilà, on en termine avec cette table ronde autour de la révolte. Et bon, vous verrez, il y a d'autres personnages évidemment qu'on n'a pas évoqués dans tous ces romans qui ne sont pas forcément uniquement des révoltés. Mais voilà, j'avais envie aussi à travers cette table ronde de mettre ce petit accent parce que c'est un des points communs que j'avais remarqué en lisant les romans de nos trois auteurs et ça me paraissait intéressant d'évoquer tout cela. Merci à Manon, merci à Estelle, merci à Lionel.
Merci
et puis
à toi, merci
vous
à toi,
les oui. retrouvez maintenant sous la bulle du livre pour les dédicaces parce que n'oubliez pas aussi que c'est en achetant les livres des auteurs que vous les aidez à vivre. On sait qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a aussi, ça va être votre travail à vous de révolter maintenant, de sensibiliser les gens qui vont venir vous parler à ces questions. Et c'est aussi l'occasion pour le salon de s'associer à ces doléances et à ces besoins nécessaires et indispensables qu'ont les auteurs pour pouvoir simplement vivre et travailler et vivre de leur travail. Merci beaucoup.